RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Vous savez que c'est parti pour les GG, pour les grandes gueules. Il est 9h02 et nous sommes ensemble jusqu'à midi pour discuter, pour débattre. Bonjour Olivier Truchot.
Bonjour Alain, bonjour les grandes gueules. Les grandes gueules sont très en forme.
Oui, et vous allez pouvoir le constater et être en forme. Je suis sûr que vous l'êtes aussi et vous le serez au 32-16 avec nous, avec l'avocat Charles Consigny. Bonjour maître.
Bonjour à tous.
Didier Giraud, agriculteur venu de Saône-et-Loire. Bonjour monsieur l'éleveur de bovins.
Bonjour Alain et bonjour à la France profonde.
Et puis Barbara est avec nous, enseignante en reconversion. Oui. Bonjour ma chère Barbara. De quoi va-t-il être question aujourd'hui dans les GG? Nos trois gros thèmes de discussion pour intervenir. À 11h20, on aura un GG 7 et match sur la réforme des retraites avec ses voix qui demandent un référendum. Le président doit-il organiser un référendum sur la réforme des retraites? Une équipe oui, Barbara et Olivier, une équipe non, avec Charles et Didier. À 10h, nous reparlerons de cette commune aussi, Périer, en Normandie, où on va offrir des polaires aux écoliers. La mairie a débloqué un budget pour offrir des polaires parce qu'on va réduire la facture énergétique, la température à l'école. Donc on achète des polaires aux écoliers. C'est au 32-16 que ça va se passer tout à l'heure à 10h. Premier sujet de discussion, on va vous emmener du côté de la commune des Mureaux, en région parisienne, avec cet adjoint au maire, socialiste, qui dénonce l'homophobie et le racisme anti-blanc.
RMC, les grandes gueules.
Depuis 2 ans, j'ai subi 11 agressions. Je me suis vu reprocher d'être qui je suis. Ces épisodes ont été marqués par de la violence verbale, des menaces physiques, allant jusqu'à la menace de mort, et aux insultes homophobes et racistes. Le blanc quitte ma ville, on est chez nous ici. C'est ce que je me suis entendu dire avant qu'on ne me poursuive jusque devant mon domicile pour me menacer de mort ensuite. Oui, les citoyens d'origine européenne peuvent faire l'objet de racisme. Et c'est un homme dont tout le parcours politique s'inscrit à gauche qui vous le dit.
Voilà, il s'appelle Boris Venon, il est adjoint au maire depuis 2020, élu depuis 14 ans au Mureaux, et là, il n'en peut plus.
Et il a donc annoncé, lors de son intervention devant le conseil municipal, sa démission, c'était il y a quelques jours, le 28 septembre dernier. Être blanc, athée, gay et non communautaire, ça pose un problème aux Mureaux. Voilà ce qu'il dit dans son intervention, ce Boris Venon. Les Mureaux, c'est une commune des Yvelines, qui souvent fait la une de l'actualité pour des problèmes d'insécurité, de communautarisme, etc. Et on a donc un élu de gauche qui constate que dans sa propre ville, hein, puisqu'il est élu depuis 2014, eh bien, on peut se faire traiter en gros de sale blanc, on peut se faire aussi traiter de sale pédé, entre guillemets, hein. Enfin voilà, puisque c'est être blanc et gay qui visiblement lui vaut ses problèmes.
Menacé de mort aussi.
Menacé de mort, et donc il jette l'éponge. Est-ce que vous êtes surpris par son intervention? Qu'est-ce qu'on en fait désormais de cette intervention de Boris Venon?
La gauche doit être contente, en tout cas.
C'est-à-dire?
Bah, moi, je pense ça, mais la gauche très mal à l'aise. Les progressistes...
Les réactions ont été essentiellement à droite, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux.
Il serait, imaginez un instant s'il était élu RN. On dirait qu'il fait de la politique, ou élu LR, ou il se trouve qu'il est élu socialiste, qu'il est en plus homosexuel revendiqué, et il explique qu'il subit le racisme anti-blanc dont... toute une partie du paysage politique nous explique quand même depuis des années que ça n'existe pas, que ça n'a pas lieu et qu'il n'y a qu'un seul racisme qui mérite d'être combattu, c'est le racisme contre les personnes noires et arabes. Donc moi je pense que ça les met très mal à l'aise, mais ça révèle une réalité qui était connue depuis longtemps.
Je me permets de nuancer, parce que Jenaba Diop, qui est une élue socialiste et même aussi une des porte-parole du Parti Socialiste, a tout de suite donné son soutien évidemment à Boris Venon. Elle a validé les propos qu'il tient. Elle ne les a absolument pas minorés. Elle a dit que c'était effectivement un problème et qu'il fallait l'affronter. Alors déjà là, j'y vois une belle évolution du Parti Socialiste quand même. C'est Jenaba Diop, elle fait pas partie de ceux qui ont rejoint la NUP, je crois. Hein. Enfin, faudrait vérifier, mais je ne crois pas.
Pas eu de réaction du côté de la NUP d'ailleurs.
Hein. Non, mais alors, ils sont occupés avec la femme d'Adrien Quatennens,
Olivier Faure,
Julien Bayou.
Non, mais ça, c'est les insoumis. Mais Olivier Faure, qui est le leader socialiste, n'a pas réagi publiquement. Bah,
c'est pour ça que je dis que les propos de Jenaba Diop étaient assez forts et intéressants. Maintenant, moi, ce qui me gêne, c'est de mettre, d'accoler à racisme un adjectif. Pour moi, il n'y a pas de racisme anti-blanc, anti-arabe. Il y a le racisme tout court. Le racisme existe partout, dans toutes les populations. Et d'ailleurs, quand vous êtes d'origine d'Afrique subsaharienne et que vous vivez au Maghreb, vous y subissez un racisme anti-noir extrêmement violent. Donc le racisme existe partout et c'est pas parce que vous êtes maghrébin que vous ne pouvez pas être raciste, c'est pas parce que vous êtes noir que vous pouvez pas être raciste. Donc ce qu'a vécu ce monsieur, effectivement, Charles a raison, c'est systématiquement dénié. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, parce que les propos qu'il tient vont être, entre guillemets, récupérés par ceux qui, effectivement, vont avoir tendance à surévaluer un type de racisme vis-à-vis d'un autre. Donc on est dans des combats aujourd'hui en France qui n'ont pas lieu d'être. Il y a du racisme dans ces quartiers, dans ces banlieues, où effectivement il y a une surreprésentation de communautés, par exemple, qui vont être maghrébines, ou turques, ou d'Afrique subsaharienne. Il va y avoir effectivement une réaction de « on est en majorité, donc les minorités, on les exclut, et éventuellement on les châtie, surtout ici, avec la question de l'homosexualité ». Oui. Tout ça entre bien dans une vision patriarcale qui me semble être tout à fait caractéristique d'une certaine culture qui se développe dans certains quartiers. Et encore une fois, pour nous qui avons écrit Les Territoires perdus de la République en 2002, il y a 20 ans, croyez bien que là, je ne découvre rien. Alors, mais rien de rien.
C'est Boris Venon qui découvre.
Enfin, toi, tu savais, mais ce qu'il explique, si tu regardes l'intégralité de son propos, puisque c'est quelque chose qu'il a écrit, c'est une déclaration qu'il a faite au conseil municipal,
voilà. Public,
dans l'intégralité de son propos, il explique qu'il est venu au Mureaux il y a 14 ans, qu'il est rentré au conseil municipal en disant que cette ville était un exemple de vivre ensemble et par rapport à la diversité de ces populations et le fait qu'il n'y ait pas de communautarisme.
Voilà. Oui, bah déjà, alors, il y a 14 ans, il y en avait.
Il y a 20 ans, ça pouvait être différent ailleurs. Lui,
il dit que la situation s'est dégradée.
Son ressenti il y a 20 ans, c'était qu'il n'y avait pas de communautarisme. Et il explique bien, et c'est ça, moi, qui m'interpelle là-dedans, c'est que la dégradation, elle est en gros, hein. Elle est autour de Charlie, quoi. Hein. Elle est avec les problèmes d'intégrisme musulman religieux, l'islam politique, qui a trouvé, on va dire pas son apogée, mais son jour de gloire ce jour-là. Et c'est quand même derrière ça qu'il y a des choses, que la parole se libère, qu'il y a des comportements décomplexés par rapport à l'homophobie, par rapport. C'est ça qui m'interpelle. C'est pas sa démission, le fait qu'il soit de gauche ou pas de gauche. Alors c'est sûr que politiquement ça les emmerde à gauche parce qu'ils ont toujours dit que c'était faux. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est que le phénomène progresse et le phénomène a pris de l'ampleur depuis les attentats, depuis le fait que l'islam politique revendicatif est devenu complètement normal dans certains quartiers. Quoi.
Ah mais il s'est normalisé.
C'est ça la norme. C'est ça la norme. Et ça, on le combat pas. 2015, la République ne le combat pas. Ça.
2015, c'est le moment, on va dire, où cette réalité a éclaté au grand jour. Mais la réalité, c'est qu'il travaille le terrain depuis les années 90. Et dans les années 2000.
C'est évident.
Dans les années 2000. Et en particulier à partir de l'élection notamment de Nicolas Sarkozy qui n'a cessé de faire des œillades à des pays comme le Qatar, etc. C'est-à-dire qu'on a banalisé l'islam politique. François Hollande, c'était pas mieux. Emmanuel Macron, il y comprend que dalle. Donc, ce que je veux dire, c'est que tous ces gens-là ont fait un travail de fond. Ça fait 25 ans qu'ils bossent le terrain. Aujourd'hui, ils ont rien à faire. Ça tombe tout seul.
Ce qui est intéressant,
Mureaux,
c'est que
c'est assumé.
C'est comme Trappe, hein. Regardez, quand on a parlé de Trappe, le maire de Trappe a hurlé au racisme. Le maire de Stein fait pareil. Il hurle au racisme dès qu'on leur dit qu'il y a des problématiques de communautarisme et de racisme dans leur ville.
Mais, revenons à ce qui se passe au Mureaux. La vidéo, elle date du 28 septembre. Les associations LGBT n'ont pas crié au scandale, n'ont pas apporté un soutien absolu à cet homme. C'est-à-dire qu'on voit bien quand même que ça fait peur à tout le monde, cette histoire. Ça fait peur à tout le monde. Personne derrière.
Oui, il n'est pas trop soutenu. Ouais.
Oui, il aurait dénoncé ça dans une commune, etc., différente. Ou au contraire, ça aurait été plutôt l'extrême droite qui serait manifestée. On aurait dit, vous voyez, c'est scandaleux.
Imaginez une seconde que ce monsieur ait été, par exemple, une personne de couleur et qu'il se soit plaint de racisme de la part de voisins dans une commune
Il lui aurait dit qu'on est chez lui.
À Neuilly-sur-Seine. Imaginez les unes de Libé, de l'Obs, la matinale de France Inter en position latérale de sécurité. Imaginez ce qu'on aurait eu, mais ça aurait été dément ce qu'on aurait eu. Des discours au Panthéon, la convocation des grandes heures.
On aurait éteint la Tour Eiffel.
De Sandrine Rousseau. Je sais pas ce qu'elle aurait pu faire.
Aurait fait un barbecue
à ce stade.
Les peintures de guerre.
Immoler peut-être. Bon. En tout cas, je suis stupéfait du deux poids deux mesures dans les réactions.
Parce qu'ils ont peur.
N'oubliez pas.
Ça met le doigt sur un angle mort en fait de leur raisonnement.
Vous avez des militantes dites féministes décoloniales qui, il y a quelques années encore, expliquaient que quand une femme noire, par exemple, se faisait agresser sexuellement par un autre noir, eh bien, il fallait qu'elle comprenne que là, elle ne pouvait pas non plus accuser un frère, etc., parce que c'était rajouté au racisme ambiant, etc. Donc, on voit bien qu'il y a un vrai dévoiement des questions essentielles que sont la lutte contre les violences faites aux femmes, la lutte contre l'homophobie, la lutte contre le racisme. Tout ça est dévoyé.
C'est un angle mort, donc.
C'est un angle mort parce que c'est dévoyé par des gens comme Sandrine Rousseau, par des gens comme les décoloniaux.
C'est le débat politique français qui fait que t'étais contre si t'étais à l'extrême droite, t'étais pour si t'étais à l'extrême gauche. Cette bipolarité de la vision politique du racisme, elle a quand même, enfin, elle se retourne contre eux aujourd'hui, quoi. Hein. La preuve, c'est que ce monsieur, il est pas tellement soutenu par son camp.
Parce que quand tu dénonces l'homophobie, il faut dénoncer aussi l'homophobie dans la culture musulmane. Il faut la dénoncer partout, l'homophobie, comme quand on dénonce le racisme.
Et ça veut aussi dire que l'extrême gauche est quand même particulièrement ambiguë avec les complaisances qu'ils peuvent avoir sur l'islam politique. C'est ça que ça dénote, quoi.
Ça s'appelle ce terme qui peut être disgracieux, mais qui a une réalité, c'est l'islamo-gauchisme. Mais dès que vous dites ce mot, ça n'existe pas. Enfin, on a un vrai problème aujourd'hui à nommer un certain nombre de problèmes. Et je pense que ça sauverait une partie de la gauche si certains assumaient. Et je pense que le travail, quelque part, de sape que fait Sandrine Rousseau, c'est très bien parce qu'à un moment donné, ça va exclure.
La gauche, elle est devenue très minoritaire.
Non, mais ces gens-là dévoient systématiquement les combats. Le combat de la gauche, le combat de l'écologie, ce n'est pas des choses qui sont représentées par des extrémistes.
La gauche dite républicaine, elle est traitée d'être très minoritaire.
Elle est traitée de réactionnaire, cette gauche-là. Regarde le sort réservé à Manuel Valls.
Oui, mais enfin, Manuel Valls aussi, dans le genre je me tire des balles dans le pied, avec un opportunisme.
Oui, mais c'était quand même celui qui portait.
Oui,
il était leur espoir pendant.
Et résultat, aujourd'hui, politiquement, il n'existe plus.
Les Cazeneuve, les Le Foll qui veulent pas sortir de leur petite caverne parce qu'ils ont peur de prendre des balles. C'est comme ça la politique.
On va écouter Jean-Christophe au 32-16. Bonjour Jean-Christophe.
Oui, bonjour les GG.
Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire, de cette démission comme ça publique, ce que fait Monsieur Venon alors?
Alors, je suis assez d'accord avec ce qu'il dit sur le plateau là, c'est que malheureusement, je suis assez content que ça soit quelqu'un de gauche qui dénonce ça, quoi. Parce que, ça, comme vous dites depuis tout à l'heure, c'est quelque chose qui existe depuis quand même des années, le racisme anti-blanc. Et comme disait Charles juste avant, là, je vous dis, je reprends un peu ce que vous avez déjà dit, mais c'est que si c'était un élu RN qui avait dit ça, ça aurait été un tollé général, sûrement ce matin, un peu partout, sur Twitter, avec tous les politiques qui vont sur Twitter.
Oui.
Que là, le fait que ce soit un élu de gauche qui le dise, je trouve que ça fait peut-être sauter un plafond de verre qui avait peut-être à ce moment-là cacher un peu ce qui était une réalité, quoi.
Il était temps, c'est ce que vous dites.
Vous enlevez le tapis où était la poussière dessous.
Le racisme, il n'est pas l'apanage des blancs, quoi. Malheureusement, quoi. Si c'était une seule catégorie qui était raciste, ça serait des fois plus pratique pour régler le problème. Mais malheureusement, il y a du racisme dans toutes les communautés, quoi. Ouais. Et tous les pays, quoi. Donc, ouais, il était temps que ça. Voilà, que
donc,
ça,
vous avez, en fait, Christophe, vous attendez politiquement de voir ce qui se passe après cette démission.
Est-ce que LFI va commencer un peu à se dire, finalement, à changer un peu son fusil d'épaule, ce qui m'étonnerait, parce que j'ai l'impression qu'ils sont encore des visières devant les yeux, quoi. Mais j'espère que ça va. Voilà,
Le maire des Mureaux pourrait réagir déjà avant même de demander.
Sa réaction?
Il n'a pas réagi pour l'instant.
Il n'a pas réagi encore, non. Pour l'instant, ce que j'ai compris, il n'a toujours pas réagi, quoi. Il ne soutient même pas son adjoint, quoi. Donc c'est. Alors en plus, c'est du racisme anti-blanc, en plus de l'homophobie. Enfin, je sais pas, on va au cumul, quoi, en fait, quoi. Et donc personne ne réagit pour défendre cette personne
Des menaces de mort, quoi.
Ah oui, plus des menaces de mort. Il y a la totale, en fait. Il y a la totale.
Vous avez raison, Jean-Christophe. Mais ce qui est intéressant, c'est la démarche qu'a fait Boris Venon. C'est-à-dire qu'il aurait très bien pu faire une interview, écrire quelque chose. Or là, il le fait en plein conseil municipal, dans une prise de parole. Ça veut dire qu'il veut que ça ait un retentissement. Ouais. Il veut l'électrochoc pour sa ville, c'est ce qu'il dit. Pour lui,
il va avoir surtout pour l'électrochoc pour sa carrière politique, parce qu'à mon avis, c'est
voilà,
fini.
Voilà, c'est ça. Mais là, même au sein, même si tu veux, il y a même au sein du gouvernement, on a pas entendu. Enfin, de mémoire, c'est assez rare. C'est la première fois que tu as un élu municipal publique.
Il le dénonce super bien.
Il dénonce ce qu'il vit.
Parce que ça emmerde tout.
C'est une vraie déflagration.
Ça emmerde tout le monde, parce que personne n'a envie d'aller sur ce terrain-là, parce que c'est touchy, parce que les gens ont peur d'être menacés à leur tour, ont peur de... Et alors, je suis en train de regarder le profil du maire des Mureaux, il s'appelle François Garret, il est élu depuis 19 ans maire des Mureaux, il a été réélu pour la quatrième fois.
Oui, c'est ça,
il a 70 ans, donc on est vers quelqu'un
qui... converti à l'islam.
Je sais pas. Élu, surtout, il a dû encore être élu, maire élu avec à peine 15% de corps électoral.
C'est quelqu'un qui voit sa ville plongée dans le communautarisme, puisque si j'en crois son adjoint...
Mais comme ça lui garde son fauteuil, il s'en fout.
Son adjoint, il dit ça allait mieux il y a 10-11 ans, la situation s'est dégradée. Donc sa ville se dégrade, plonge en communautarisme, et visiblement, ce François Garret, qu'est-ce qu'il fait ?
Les
Ça
Mureaux.
Serait bien d'ailleurs l'avoir au téléphone.
Ouais, alors les Mureaux, dans les années 2000, excusez-moi, j'étais prof, je connais très bien l'Académie Paris-Versailles-Créteil, je peux vous dire que les Mureaux, quand j'ai commencé ma carrière de prof, même dans les fins des années 90, personne n'avait envie de se jeter vers les collèges de Trappes ou des Mureaux. Hein. Donc bon, les Mureaux, il y a 10 ans, c'était pas non plus le bonheur du vivre ensemble.
Si c'était
ce qu'on dit, en tout cas, moi je vous dis que quand on est anticommunautariste, il y a 20 ans, les Mureaux et Trappes, c'était déjà communautarisé. Donc voilà.
T'as un maire qui est là depuis 20 ans.
Ouais. Bon, donc c'est aussi son échec.
C'est son échec. C'est son échec. Mais moi, je trouve que c'est son échec, non. Ou ça lui permet d'être élu, pardon.
C'est surtout ça.
On peut le dire comme ça aussi.
C'est pas un échec.
Oui, mais enfin, pour avoir un adjoint qui démissionne comme ça, c'est l'échec.
Il y a la mini-zone pavillonnaire des Mureaux. C'est avec la petite zone pavillonnaire des Mureaux que vous vous faites élire. Et vous ne faites pas élire dans les grands ensembles. C'est tout. On connaît le système. C'est partout pareil. Drancy, tout ça. Bobigny, ils se font élire avec la petite population des petits pavillons ouvriers, petite classe moyenne. Et puis les grands ensembles, ça ne vote pas. Ou bien on fait voter une ou deux tours. On a quelques relais clientélistes, en général aussi un peu islamistes au passage. Et puis voilà, vous faites réélire. J'invite les gens à lire d'ailleurs l'excellent livre de F. Cheftel, Le maire et les barbares, qui raconte bien comment la ville de Bobigny est tombée aux mains des amis de Jean-Christophe
Lagarde. Je suis même étonné d'ailleurs que dans la foulée de ce qu'a dit M. Vénon, l'ensemble du conseil municipal d'ailleurs n'est pas démissionné en soutien, quelle que soit la tendance. Nous sommes solidaires de notre collègue vu avec ce qui lui arrive, et nous-mêmes, tu vois, ça pouvait être une action collective.
C'est pour ça que Jenaba Diop a été la seule socialiste du coin, parce que je crois qu'elle est dans les Yvelines, à s'exprimer. Donc,
je pense, tu vois, Alain, que du coup, ça explique aussi pourquoi il a fait ce geste-là, il a rendu public et qu'il a fait cette déclaration-là, parce que je pense
il doit se sentir bien seul.
Sa déclaration, elle est pas super populaire chez lui, quoi, à mon avis. Je suis pas sûr que ses collègues du conseil municipal étaient très heureux de le voir faire cette déclaration-là. Je pense que c'est vraiment un acte politique, comme il l'a fait, quoi.
C'est un acte politique, et c'est aussi un aveu d'échec. C'est-à-dire que lui-même se dit,
sûrement,
finalement, j'ai échoué, je me retire.
Bah oui.
C'est-à-dire que c'est terrible, l'image.
Je crois même que c'est courageux, quoi.
Voilà. Alors, c'est courageux, et en même temps, il s'en va, donc ça veut dire que de toute manière, il sait que lui, il est tout seul et qu'il ne pourra pas s'en sortir.
Eh bien, on va continuer d'en discuter. Dans un instant, je remercie Jean-Christophe d'avoir été avec nous au 32-16. Dans un instant, nous serons avec Logan. Il est chef d'entreprise. Il est dans les Hauts-de-Seine, voir comment il appréhende ce qui s'est passé. Leblanc quitte ma ville. On est chez nous ici. Boris Vénon, ancien adjoint au maire, quitte la ville des Mureaux et ses fonctions. J'ai été insulté. Propos racistes, homophobes, menacés de mort, il n'en peut plus. Une histoire dont on est d'ailleurs dans les GG assez étonné qu'elle n'ait pas plus de retentissement. Venez en parler avec les grandes gueules au 32-16.
RMC,
9h midi,
les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, Barbara Lefebvre, Charles Consigny, Didier Giraud, c'est notre trio de GG qui nous accompagne là depuis 9h ce matin et nous sommes ensemble, vous savez, comme tous les jours, jusqu'à midi à la radio et à la télé. On parle de ce qui se passe au Mureaux avec la démission d'un adjoint au maire, victime de racisme contre les homosexuels, racisme anti-blanc. C'est ce qu'il dit, on m'a menacé de mort. Et il a fait cette déclaration en plein conseil municipal. Logan veut en parler avec nous. Bonjour Logan.
Bonjour.
Comment vous réagissez-vous aussi à cette affaire, Logan ?
C'est sans surprise. C'est sans surprise. Le racisme anti-blanc est quelque chose qui existe depuis des années. Barbara Barbara l'a mentionné tout à l'heure, si cet élu du Parti Socialiste a pu prendre cette écosse pour cet élu, c'est parce que dans sa position, elle peut le faire. Moi, je suis racisé. Moi, demain, si je dis ouvertement qu'il y a du racisme anti-blanc, personne ne me contredira.
Ça veut dire quoi, je suis racisé, Logan?
Je suis black. Je suis black.
Oui, maintenant, on dit plus black, on dit racisé.
Je suis noir.
Je suis noir. Et donc, du coup, je suis originaire des Antilles, et oui, le racisme anti-blanc existe. J'ai grandi en Seine-Saint-Denis, oui, ça existe.
Et ça se manifeste comment, alors, dites-moi?
Désagréablement. Donc, surtout quand on est blanc et chrétien.
Donc, on est bien d'accord, il y a une dimension liée à l'islam politique.
Aussi. Et le problème dans nos sociétés, c'est que on part du principe que les gens racisés, je vais mettre ça entre guillemets, sont nécessairement des victimes du racisme. Donc du coup, on a du mal à concevoir
qu'il soit
auteur de faits racistes.
Oui, on ne peut pas penser que la victime va devenir coupable, en fait.
Voilà, c'est-à-dire qu'on part du principe dans notre société que le noir et l'arabe, il est nécessairement victime de racisme. Donc le racisme anti-blanc, non, c'est pas possible.
Mais à la fois, il peut être lui-même être victime de racisme et puis être raciste. Parce qu'on est raciste contre la différence, contre quelqu'un qui ne ressemble pas. D'ailleurs, simplement, vous dites l'aspect religieux, mais je rappelle que Boris Venon, il dit être blanc athée.
Oui.
Hein, athée, il dit athée. Donc, il y a aussi une dimension religieuse. C'est-à-dire que lui-même, se présentant comme non-croyant, il se fait insulter parce qu'il dit qu'il ne croit pas.
Après, Logan, on ne peut pas non plus nier une chose, même si ça ne déroule pas et ça ne découle pas à un racisme, mais il y a des préjugés qui sont quand même des préjugés très forts dans nos sociétés. Il y a des préjugés sur les Noirs, il y a des préjugés sur les Arabes, il y a des préjugés sur les Juifs, il y a des préjugés sur les homosexuels. C'est une réalité. La question des préjugés, tout le monde a des préjugés. Ça ne veut pas dire que tout le monde est raciste. Le racisme, c'est un passage à l'acte à la fois verbal, voire physique, qui est quand même assez particulier. C'est une vision du monde qui est complètement binaire, avec des hiérarchisations, etc. En revanche, les préjugés, c'est quand même ce qui est, universellement répandu. Et peut-être le problème d'ailleurs, c'est souvent que certains élus, certains politiques confondent les préjugés et le racisme.
C'est possible, c'est possible. Après, cet élu, malheureusement pour cet élu, alors il a fait part également de son orientation sexuelle, il était obligé de démissionner, c'était pas tenable pour lui.
Pourquoi ?
Parce que c'est comme ça que ça se passe chez nous.
Être gay au Mureaux, c'est pas possible, quoi.
Essayez, vous verrez. Mais vous passez pas la semaine.
Du coup, Logan, moi j'ai une question.
Ah, attendez, vous passez pas la semaine.
Éclairez.
Je vous fiche mon billet. Vous arrivez le lundi, le vendredi, vous êtes plus là.
Mais du coup, éclairez ma lanterne de rural qui connaît pas du tout ça, Logan.
C'est l'homosexualité, Didier, est très bien accepté.
Non, mais c'est quoi qui pose le problème
en ruralité?
C'est quoi qui pose le problème? C'est d'être blanc, d'être homosexuel ou d'être homosexuel quand on est chrétien, quoi.
Enfin, c'est les trois. Il coche toutes les cases, le malheureux.
C'est une réalité.
C'est-à-dire que vous.
Non, mais la base du racisme,
elle vient d'où? Il n'est pas juif.
La base du racisme, elle est religieuse.
Oui, heureusement, il manquerait plus que ça. Mais très sincèrement, à partir blanc, chrétien, homo, ça serait mon ami. Je l'aurais dit, mais t'installes surtout pas ici. Tu tiendras pas. C'est intenable.
Et comme vous dites, ça se manifeste.
Religieux.
Vous dites que ce racisme se manifeste désagréablement. Par exemple.
À minima, des insultes quotidiennes. À minima.
Et à maxima?
Des coups. Des coups, des menaces de mort, des intimidations sur les membres de sa famille. C'est très violent.
C'est ce qu'il a vécu, Boris Venon. C'est ce qu'il a décrit.
C'est pas un secret, je pense qu'il faut en parler. Ça existe. Et c'est... un dysfonctionnement, c'est bien plus que ça. Mais c'est comme ça que ça se passe.
La pression exercée en particulier sur les homosexuels et sur les jeunes qui veulent assumer leur homosexualité dans ces quartiers-là, c'est un cauchemar. Et là-dessus, je rejoins Olivier, c'est un scandale que les grandes associations qui luttent contre l'homophobie, les entende pas. Par contre, ils s'occupent de nous casser les bonbons avec leurs histoires de prénoms à l'école et de nous dire que le plus important, c'est les transgenres et la GPA. Non, moi, je suis désolée. C'est la défense des personnes qui veulent pouvoir vivre leur homosexualité librement dans certains territoires de la République.
Merci à Logan d'avoir été avec nous en direct sur RMC, RMC Story. C'est Aïssine qui veut lui aussi discuter et il nous appelle de Mantes-la-Jolie dans les Yvelines. Bonjour Aïssine.
Bonjour Alain, vous m'entendez?
Oui, très bien, j'espère que je prononce bien votre prénom. Non, c'est Alcine.
C'est Alsa.
Alsa, d'accord, Alsa. Excusez-moi.
Merci à vous les grandes gueules. Tout d'abord, je tenais à vous dire que vous faites du bon boulot et que je vous suis depuis très longtemps.
Merci.
J'apprécie vraiment ce que vous faites et j'aurais moi aussi kiffé être une grande gueule.
sinon, qui sait un jour, allez-y.
Ce que je voulais dire, c'est que, voilà, moi je suis pas trop d'accord avec le fait qu'on dise que le racisme anti-blanc existe. Est-ce que l'homophobie existe? Bien sûr que l'homophobie existe. Est-ce qu'il est difficile d'être un homosexuel dans certains quartiers comme le Val-Forêt où je vis, où j'habite, comme le quartier des musiciens au Mureau? Bien sûr que c'est très difficile. Et ça, bien sûr, c'est un véritable problème d'État où on devrait pouvoir apporter des solutions, malgré que c'est très compliqué. Mais le racisme anti-blanc n'existe pas, parce que le racisme anti-blanc n'est pas ancré dans une histoire culturelle ou ethnique. Être noir aujourd'hui, ça a beaucoup de difficultés quand on part chercher un emploi. Parfois, quand on est noir, c'est très compliqué de trouver l'emploi. Quand on va, moi, à titre personnel, quand je me souviens, je déposais mes CV pour mon bac plus 3 en banque et je faisais toutes les banques. Et j'étais à Paris 6e et là, je rentre dans une banque et il y avait un directeur qui était très, 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 très aimable et qui me dit, écoutez, ici, les gens sont un petit peu racistes, descendez en bas, vous aurez plus de chances de trouver du boulot. Et c'est ça la difficulté que l'on a quand on est noir. Quand parfois on cherche un logement, bah c'est très compliqué d'avoir un logement quand on est noir ou quand on est maghrébin. On l'a vu récemment avec l'histoire des plages.
Oui,
quand
sur on avait la Côte d'Azur.
Couples,
ouais.
Exactement, quand on avait les couples noirs et les couples maghrébins qui partaient justement pour accéder à la plage, bah on leur refusait. Quand le couple blanc est arrivé, bah eux, ils ont eu accès à cette plage-là. Et on l'a vu aussi récemment avec...
Non, mais ce que vous nous écrivez, là, Astine, c'est l'inverse de ce qui s'est passé, là.
Non, parce qu'on parle du racisme anti-blanc. Le racisme anti-blanc n'existe pas. Moi, là, je dénonce le fait qu'on dise que le racisme anti-blanc existe. Moi, je suis d'accord que l'homophobie existe.
Alors, ce monsieur, ça, pourquoi il était agressé? C'est juste parce qu'il était homophobe et chrétien, c'est ça? Homosexuel et chrétien, pardon.
Moi, je suis noir. Moi, je suis noir. Je possède tous les tares du monde. Moi, je suis noir. J'ai grandi dans une cité. Malgré ça, je me suis battu. J'ai travaillé. Je suis devenu banquier. J'ai mon meilleur ami. Mon meilleur ami, sa maman, elle est blanche. Mon deuxième meilleur ami, il est blanc, il s'appelle Ludovic, il vit à Mantes-la-Jolie, au Val-Forêt, il n'a jamais subi le racisme, ses parents sont chrétiens, il a vécu comme tout le monde. Moi, ce que je vous dis, cette personne-là, elle a vécu, c'est l'homophobie qu'on doit condamner, et l'homophobie, par contre, les gens dans les quartiers sont souvent homophobes, malheureusement, c'est un fait, mais le racisme anti-blanc, non, il n'existe pas. Parce que
mais alors donc, quand on lui dit
le blanc quitte ma ville
parce qu'ici on est chez nous, qu'est-ce que vous appelez ça comment alors?
Bah, très bien, je suis d'accord. Quand on dit ça, ce sont des incivilités envers certaines personnes. Moi, quand j'étais beaucoup plus jeune, madame, excusez-moi, quand j'étais beaucoup plus jeune, je pensais que le racisme, c'était celui qui me qualifiait de sale noire. Mais en grandissant, je me suis aperçu que sale noire, bien évidemment, ça me blessait, ça m'offusquait. J'ai déjà été insulté de bon boulard, ça m'a offusqué, bien évidemment.
C'était
des paroles racistes. Mais en grandissant, je me suis aperçu que j'aurais même préféré que cette personne-là m'insulte de sale noire et que je puisse accéder à un emploi facilement et que je puisse accéder à un logement facilement. C'est ça le souci. Bien sûr qu'il existe
je comprends pas très très bien
ce qu'il dit.
Sale blanc, c'est pas du racisme.
En tout cas, moi je peux vous dire,
j'essaie de comprendre ce que vous dites.
C'est-à-dire que
vous
dites, font pas recaler pour avoir un emploi.
Quand on est noir, on souhaite être traité de sale noir, mais le plus grave, c'est que on n'a pas le boulot qu'on veut, on n'arrive pas à avoir un logement. Alors qu'aujourd'hui, les blancs, ce que vous dites, dans les quartiers, on les empêche pas d'avoir du boulot, on les empêche pas d'accéder à un logement. C'est ça que
moi je vais te dire un truc, c'est que si t'es blanc. Tu viens de Mantes-la-Jolie, que ton adresse c'est le Val-Fouré et que, excuse-moi, tu parles un peu là, wesh wesh, eh ben excuse-moi, tu seras pas pris non plus. Tu seras pas pris non plus parce que c'est un préjugé qu'on a par rapport aux jeunes de banlieue. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que nous, quand on est prof, et moi j'enseignais pendant plus de 10 ans en ZEP, on leur expliquait que il peut y avoir une façon de parler avec ses copains, ouais ouais machin, mais quand tu t'adresses à un chef d'entreprise, quand tu viens faire un stage, etc., tu parles normalement parce que les codes de langage, c'est pas de parler wesh wesh. Donc ni quand t'es blanc, ni quand t'es noir, ni quand t'es rien du tout, tu parles normalement.
Vous appeliez de Mantes-la-Jolie, on va rester dans les Yvelines, mais justement on va aller au Mureau avec Chantal. Bonjour Chantal.
Bonjour, les grandes gueules.
Justement, une habitante des Mureaux, alors que pensez-vous de la démission de votre élu, monsieur Venon, alors?
Eh ben, je la regrette et je le soutiens à fond. Parce que savez-vous que moi aussi, j'ai subi ce racisme anti-blanc.
Comment ça s'est passé?
Alors, j'étais à l'arrêt du bus, je fumais tranquillement ma cigarette. Puis il y a trois, quatre jeunes qui sont passés devant moi, qui m'ont craché aux pieds.
Oui.
Me traitant de sale blanche, que j'avais rien à foutre au bureau, et j'avais qu'à dégager.
C'était quand ça?
Oh, il y a quoi? Même pas un an. Il y a même pas un an.
Bonne ambiance et vous restez sur place quand même.
Donc on n'est pas sur l'homophobie, on n'est pas.
Comment avez-vous réagi, Chantal, alors, du coup?
Un racisme anti-blanc.
Eh ben, je leur ai répondu, et ils m'ont dit si t'es pas contente, on te casse la gueule.
À trois, contre une femme, on a encore une fois, bravo, courage, toujours pareil.
Oui, sale blanche, sale française.
C'est des mecs, ça y paraît.
Dégage, t'es pas chez toi, ici on est chez nous, t'as qu'à la fermer.
C'est exactement les propos qui ont été tenus contre Boris Vénon, hein, c'est-à-dire le blanc quitte la ville, on est chez nous.
Mmh. Exactement. Et je peux vous dire que mon frère est homo, et il a été obligé de quitter les Mureaux. Hein.
Parce que qu'est-ce qu'il subissait?
Sur son travail, il y avait des collègues plus ou moins maghrébins et noirs. À l'époque, il était chez Leader Price. Et ils ont tout fait pour qu'il parte.
En lui disant quoi? Qu'est-ce qu'il entendait au quotidien, alors?
Câble à le pied des blancs.
Ah oui.
Les deux sont liés.
Comment?
Mais vous-même, Chantal, vous avez envie... Enfin, vous restez sur place? Vous n'avez pas envie de partir?
Ah, j'ai toujours dit, s'il en restait qu'une, ce sera moi.
Ah oui, vous êtes attaché au mur.
Vous en avez parlé avec d'autres habitants, ou je sais pas, ou même avec les élus, lorsque vous les croisez, ou pas, Chantal?
J'en ai parlé à droite et à gauche. Ils me disent, écoute,
c'est
rien
ça
à y faire, ils sont plus nombreux, on n'a qu'à la fermer, et puis voilà. Mmh. Et je vais vous dire, ça ne vient pas que de M. Garret. Hein. Déjà, à l'ancien maire, M. Ettore, quand il a fait venir déjà tous les habitants de Montreuil, quand ils ont cassé leur bâtiment, ça a commencé déjà là. Hein.
M. Garret, c'est le maire de la ville, hein, qui a été réélu pour la quatrième
fois.
Et
Chantal, est-ce que Chantal, tout ça a eu un effet sur votre façon de voter au fil des ans?
Au fil des ans, je n'ai pas voté Garret.
Oui, d'accord, mais à l'échelle nationale, est-ce que vous voyez une forme de glissement de votre vote, on va dire, vers des partis qui sont un petit peu plus musclés sur la question de la gestion de certains quartiers?
Exactement.
Chantal, merci de ce témoignage en tant qu'habitante des Mureaux. C'est vous qui aurez conclu la discussion. Donc on a maintenant hâte de voir aussi la réaction du maire, d'entendre des élus, les députés, pourquoi pas des ministres aussi sur cette histoire qui est un peu mise sur le côté politiquement, cette affaire des Mureaux et la démission de l'adjoint au maire socialiste, monsieur Boris Vénon. On a posé la question sur ce racisme anti-blanc, justement. Regardez, c'est un oui, il faut le dénoncer, racisme anti-blanc à 91,2%. Dans un instant, avec les GG, avec Charles Consigny, avec Didier Giraud, avec Barbara Lefebvre, on s'en fout pas, l'arrestation de l'imam Iqiyoussen, 10% des couples qui font chambre à part, et Xavier Bertrand qui lance son parti, nous, France, on s'en fout pas. Allez, à tout de suite avec les grandes gueules.
RMC, jusqu'à midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules, c'est sur RMC, RMC Story. Et si vous ratez les GG, vous savez que vous avez les podcasts à votre disposition via l'appli RMC ou sur notre site internet rmc.fr. Ça vous permet c'est la session de rattrapage, hein, d'écouter ou de réécouter les grandes gueules tranquillement, à l'aise, grâce au podcast. Avec Didier Giraud, avec Charles Consigny et Barbara Lefebvre, à 10h moins le quart, on accueille le camarade Louis Gerland.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout.
Je peux pas te dire à quel point je m'en fous.
Pardonnez-moi, mais je m'en fous.
Ou on s'en fout pas.
Bonjour Louis.
Bonjour à vous.
Allez, on y va, c'est parti, on va regarder, passer en revue ton actualité.
Exactement, Sandrine Rousseau, huée hier, on écoute la séquence lors de son discours.
Partout dans tous les pays du monde.
Ouais.
Yeah.
à Paris lors de la manifestation pour soutenir les Iraniennes. Elle monte sur une estrade, elle fait un discours et donc, comme vous l'avez pu l'entendre, se fait huer très fortement. On s'en fout pas, Charles.
On s'en fout.
Didier.
Ah, je m'en fous pas.
Ah, je m'en
Barbara.
Fous pas, non.
Barbara.
Ah non, mais c'est assez jouissif de la voir parce que, par ailleurs, Madame Sandrine Rousseau ne voit aucun problème au port du burkini dans les piscines, aucun problème au port du hijab, y compris lorsque des fillettes sont obligées de porter le hijab par leurs parents. Mais là, elle ose venir parler et crier le slogan « Femme, vie, liberté ». Donc, je trouve qu'elle a été très bien accueillie au regard de ces nombreuses contradictions qui sont des contradictions gravissimes, voire criminelles, parce qu'aujourd'hui, il y a plus d'une centaine, voire 200 morts dans les combattants de la liberté en Iran. Je remarque aussi que dans le monde entier, il y a des manifestations pour appeler les gouvernements à des sanctions contre l'Iran, à s'opposer au gouvernement iranien. Oh, on les entend pas. À part, on est concentré à envoyer des canons César à Zelensky, très bien. Mais alors sur l'Iran, rien de rien. Ça n'intéresse personne.
Peut-être une histoire de gaz.
Ah, tu crois? Non.
Vraiment, je sais pas où t'allais chercher
Didier.
Ça.
Non, pas, mais je
supposition.
Ce que je trouve, c'est que cette séquence révèle ce qu'est Sandrine Rousseau. C'est quelqu'un qui est toujours dans l'extrême et elle n'est pas à une contradiction près pour faire le buzz, pour soutenir une cause. Je trouve qu'elle discrédite complètement son mouvement. Et ce qui est bien dans cette séquence, c'est que ça fissure un peu plus la NUPES. Parce que globalement, je ne crois pas qu'il reste grand monde qui va soutenir Sandrine Rousseau demain matin dans l'hémicycle.
Alors, pour finir ce matin sur Inter, Sandrine Rousseau a affirmé que trois femmes de gauche hier se sont exprimées et que les trois ont été sifflées, dont Laurence Rossignol, ce qui a été démenti par la suite par Lamia El Arrage, la conseillère de Paris en commun, et retweeté par Laurence Rossignol. Non, je n'ai pas été sifflée.
Donc elle s'enfonce.
Voilà, donc elle s'enfonce.
Bien elle qui a pris cher. Comme
on passe à la suite. Voulez-vous toucher avec moi ce soir? 10% des couples font chambre à part. Un couple français sur 10 fait chambre à part. Un chiffre qui monte même à 1 sur 6 si on ajoute ceux qui souhaitent le faire mais n'ont pas encore franchi le pas. Alors on s'en fout pas, Didier.
On fout complètement.
Charles.
Non, on s'en fout pas.
Alors Charles.
Mais parce que c'est la promiscuité contemporaine qui invite les gens à s'entasser dans des lits Ikea de 140 cm de large et à partager leur salle de bain, leur toilette. Dans les bonnes maisons, il y avait la chambre de monsieur, la chambre de madame, la salle de bain de monsieur, la salle de bain de madame. Mmh. Évidemment qu'on n'envisageait pas de faire chambre commune, on n'envisageait pas d'ailleurs de coucher avec sa femme. Ce n'est pas du tout l'objet du mariage. Donc je suis heureux qu'il reste 10% de récalcitrants.
Barbara.
Mais c'est même peut-être... Et pourquoi les couples résistaient bien, en dehors des mariages arrangés, bien entendu, cher Charles, c'est aussi justement parce que chacun avait son espace d'intimité. Mmh. Et quand effectivement, c'est des tout petits lits de 140 cm sur 190, c'est logique que chacun ait son lit. Après, il faut que chacun ait sa chambre. Mais on peut avoir un bon clic-clac dans son salon. Et moi, je trouve que
qui va dans le salon, c'est le garçon.
Ah ben, on peut changer. Non, faire un jour oui, une semaine oui, en garde alternée. Le clic-clac en garde alternée. Moi, je trouve que il y a beaucoup de couples qui s'en porteraient bien mieux de dormir chacun dans son lit. On est bien, on est
tranquille. Didier n'est pas d'accord avec ça.
Didier, chez lui,
mais je me fous pas des conneries qu'ils racontent les deux là. Vous êtes quand même des atrophiés de l'amour, et je peux dire que
tu dors avec les bêtes.
Te réveiller à côté de ta compagne le matin, sentir qu'elle est à côté de toi, moi je trouve que c'est la meilleure sensation de la vie d'un amoureux. Voilà.
C'est l'amour qui triomphe.
Sentir la bonne haleine du matin, ça c'est vrai. Ah oui. Excusez-moi.
Je me brosse les dents avant d'aller dire, ma chère Barbara.
Je me souviens, mes grands-parents paternels faisaient lit à part. Ils étaient
à la fin de leur vie.
Lit à part.
Voilà. Je pense qu'ils ne faisaient pas au début. Non. Moi, je pense que c'est un truc en vieillissant. C'est-à-dire que tu ne portes plus ta gonzesse ou ton mec. Et que.
Et y avait
dans ce cas-là, change.
Et au lieu d'en changer.
Tu tapes de nuit entre les deux.
Au lieu d'en changer, tu vas dormir au fond du couloir.
Oui, c'est ça. Tu vas dormir au fond du couloir.
C'est un truc de vieux bourges qui ne divorçait pas, quoi. C'est tout.
Et il faut avoir les moyens d'avoir une chambre au fond du couloir.
On continue, oui.
Allez, musique. Ne m'appelez plus jamais. Xavier Bertrand a lancé son mouvement Nous France ce samedi 1er octobre 2022 dans l'Aisne, promettant un mouvement moderne, jeune et rassembleur, on s'y croirait, et résolument opposé à l'extrême droite. On s'en fout pas, Charles.
On s'en fout pas.
Didier.
Je ne m'en fous pas.
Barbara.
Je crois que je m'en fous.
Allez, Charles, commence.
Non, moi, je pense que il faut toutes les sensibilités à droite et que Bertrand incarne une certaine sensibilité qui aujourd'hui est de moins en moins représentée. Et donc, je pense que c'est toujours une bonne initiative de créer son truc et de proposer quelque chose.
Didier?
J'en ai marre de Bertrand. J'en ai marre de Bertrand qui fait des allers-retours entre le parti et sa liberté, qui est dans le parti quand ça l'arrange. Pour être à la primaire
qu'il était
et qui s'écarte du parti dès qu'il a plus besoin
non,
du parti.
Il a dit qu'il était
Bertrand, il est dans le parti, tu l'aimes ou tu le quittes quoi à un moment donné.
Non, je suis
et tu viens et tu
je
viens pas juste
Didier.
Et tu viens pas juste au parti que quand t'as besoin non, d'aller à la primaire
je
quoi.
Suis pas d'accord.
Il se fout de la gueule des électeurs ce mec là.
Je ne suis pas d'accord Didier, là tu fais fi des combines de parti, il se trouve que LR ne cesse de faire des scrutins, des nominations, des choses comme ça réservées aux seuls adhérents. Adhérents dont ils réduisent souvent artificiellement le nombre en demandant des exigences de cotisation.
On reconnaît que c'est toujours la même stratégie.
Mais c'est pas sa fille de joie le parti.
C'est une stratégie qui pour l'instant
donné, quoi.
C'est aux républicains de faire un effort pour s'ouvrir. Et d'ailleurs, j'observe par exemple que quand il y a des.
C'est pas s'ouvrir
quand il y a des primaires. Quand il y a des primaires. Taisez-vous. Quand il y a des primaires ouvertes. Les partis gagnent.
Silence pour la France!
Ou alors sont au bord de les gagner. Hollande est désigné par une primaire ouverte. Fillon, qui reste très haut, tout le scrutin est désigné par une primaire ouverte. Quand c'est des congrès ou des primaires fermées,
oui,
ils élisent des Benoît Hamon, enfin, ils désignent des Benoît Hamon, des candidats perdants. Donc, je trouve, typiquement, par exemple, que, on verra ce que fait Bertrand, mais par exemple, moi, contrairement à ce que beaucoup réclament, je pense que les Républicains devraient faire une primaire ouverte pour la prochaine présidentielle.
On termine, Louis. Ça n'empêche pas. Laissons le parti.
Hop.
Didier. On termine.
Alors, vous savez, on a retrouvé quelqu'un ce week-end. L'imam Iqiyoussen retrouvé. Et on s'en fout pas, Barbara.
Ah non, on s'en fout pas, c'est trop drôle.
Charles.
Moi, je m'en fous.
Ouais, Maria Pacôme. Hein.
Ouais.
Et tu savais comme je m'en fous.
Alors, Barbara.
Non, c'est formidable. J'ai une pensée pour Gérald Darmanin, qui se réjouissait de l'avoir perdu, qui se réjouit de l'avoir retrouvé. Je pense que c'est une grande histoire d'amour
et
entre lui et l'imam Iqiyoussen.
On est emmerdé moi, parce que le Maroc n'en veut plus. Hein.
Oui, moi je pense qu'il faut le mettre en rétention administrative chez Gérald Darmanin, pour que Gérald Darmanin le garde bien, et que éventuellement peut-être qu'il fasse du babysitting chez Gérald Darmanin. Je crois qu'il a eu un autre enfant. Donc voilà, peut-être qu'il peut garder lui-même les enfants de Gérald Darmanin.
Mmh. Mais il veut rester en Belgique. Non,
oh,
il va demander l'asile.
À Molenbeek, il veut vivre à Molenbeek.
C'est ballot. Non, mais c'était tellement ridicule. Donc là, maintenant, Gérald Darmanin nous dira je me réjouis que
ça
nous
ayons. Ça reste un casse-tête parce que on le récupère, alors c'est pas fait, hein, mais s'il revient en France, si le Maroc ne veut pas le récupérer puisqu'il est marocain, on est obligé de le garder en rétention, mais tu peux pas garder quelqu'un en rétention très longtemps. Donc il serait de nouveau en liberté et donc c'est retour à case départ.
D'autant que je crois que Mme Borne va encore une fois aller s'aplatir en Algérie dans pas longtemps. Donc je pense que le Maroc va encore être encore plus en colère contre nous. Donc je pense qu'effectivement, il vaudrait mieux que l'imam reste en Belgique.
Merci monsieur Louis Gerbier.
Merci à tout à l'heure
à 10h40 pour le quiz des GG. Offrir des polaires aux écoliers, est-ce que c'est utile ou ridicule? C'est monsieur le maire de Périer
et on l'aura avec nous.
En monsieur Normandie, Daube. Voilà, il sera en direct avec nous monsieur le maire Gabriel Daube. Pour faire des économies,
campagne,
il baisse le chauffage, mais
c'est la daube au Perrier.
Bravo,
c'est rare de la daube au Perrier. Parce que moi, je connais la daube au vin rouge, mais au Perrier, c'est
il
rare.
Disait, ouais. Attendez, daube. On va l'avoir au téléphone. Ouais.
C'est comment c'est les vannes.
Commencez pas à dauber sur son nom.
Voilà, merci.
C'est bien. Là, je suis pas sûr.
Là, il va raccrocher à cause de vous.
Non, allez, sans rigoler.
Moi, je vais soutenir sa proposition, enfin son action.
Ah bah tiens.
Tout en la contestant, mais tu vas voir.
Ça, c'est tout le talent de l'avocat. Allez, à tout de suite avec les grandes gueules.
C'est bien ce que j'avais dit.
RMC, jusqu'à midi.
Les grandes gueules.